Vous écoutez RTL.
Ça y est, il est 9h. Hein.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les fameuses lettres amoureuses de François Mitterrand ont-elles leur place au rayon littérature? Dans un instant, la réponse de Bernard Lehu et un ami d'Anne Pinjot nous racontera les coulisses de cette publication qui fait couler beaucoup d'encre. Il est à l'origine du projet. 3 ans après Love, vendu à 400 000 exemplaires, le chanteur Julien Doré nous fera découvrir en avant-première au micro de Stephen Bellery les chansons de son nouvel album qui sortira vendredi. J.K. Rowling serait-elle accro à sa propre saga Harry Potter? L'auteur, en tout cas, semble exploiter le filon jusqu'à l'épuisement. Cette semaine paraît en France le livret de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Laurent Marsic fera le point sur le business Harry Potter. Et puis nous retrouverons avec Mounik Younes, un personnage de bande dessinée qu'on adore, le petit Riyad, héros de la saga L'Arabe du futur de Riyad Satouf. C'est le 3e tome qui vient d'arriver en librairie.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, jeudi prochain, seront donc publiés chez Gallimard Lettres à Anne et Journal pour Anne. C'est la correspondance amoureuse de François Mitterrand adressée à Anne Pinjot. 1700 pages que vous avez pris le temps de lire. On va y revenir, mais on va d'abord s'intéresser aux coulisses de cette publication. Vous avez rencontré l'homme par qui tout est arrivé.
Mais oui, Jean-Loup Champion, un ami d'Anne Pinjot, spécialiste comme elle de l'histoire de la sculpture. Ils ont écrit plusieurs livres ensemble. Il est également éditeur d'art chez Gallimard. Une précision qui a son importance. Jean-Loup Champion raconte la suite.
Et un jour, en effet, elle m'a appelé pour m'inviter à déjeuner, ce qui était assez rare. Il y a un an exactement. Ça fait un an que donc j'allais déjeuner chez elle. Nous avons déjeuné. Après le déjeuner, elle m'a montré ce document extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a sorti des cartons à chaussures, beaucoup, puisque c'était plein de ces 1218 lettres, puisqu'après on les a comptées. Et ce journal illustré par François Mitterrand, qui lui est formé d'une vingtaine de blocs de correspondance. Ça a été un énorme choc pour moi de voir ces documents historiques et pouvoir les manipuler, en lire certains. Et je suis sorti de chez elle, évidemment, j'ai couru chez Antoine Gallimard pour lui parler de cette affaire. Il a été immédiatement enthousiaste.
Alors Bernard, vous avez donc lu ces lettres et le journal de François Mitterrand. Ce sont d'incontestables documents pour les historiens, mais fallait-il les publier?
Alors là, je crois que la réponse relève de l'intime conviction de chacun. Je sais d'ailleurs qu'autour de cette table, les avis divergent, mon cher Yves.
Mais quoi qu'on en pense, et d'un strict point de vue littéraire, ces lettres méritaient-elles une publication?
Alors là, j'en suis persuadé. Quelle que soit l'opinion que l'on a de Mitterrand, l'homme politique, et le jugement moral que l'on porte sur la relation clandestine et non exclusive, rappelons-le, de l'ancien président avec Anne Pinjot, force est d'admettre que la qualité du style, l'étendue de la culture, l'élévation du propos que l'on découvre sous la plume de Mitterrand impressionne. On cherche en vain l'homme politique qui serait capable aujourd'hui de s'exprimer de la sorte.
Alors faites-nous-en la démonstration par l'exemple.
Lettre du 3 mai 1964, à l'heure des premiers serments. Si vous prenez un jour le chemin qui va vers moi, la mort seule m'arrachera de vous. L'amour d'abord platonique prend chair et apparaissent les envolées sensuelles. J'aime ton plaisir qui surgit du volcan de nos corps. Janvier 1975, naissance de Mazarine. Mazarine chérie, j'écris pour la première fois ce nom, je suis intimidé. Anne est ta maman, tu verras qu'on ne pouvait pas choisir mieux, toi et moi.
Alors c'est une correspondance qui aura duré 33 ans.
Mais oui, un rythme qui évoluera au fil des années, bien sûr, mais qui jamais, comme leur passion, ne se tarira. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davantage? Ainsi se termine la dernière lettre de François Mitterrand 3 mois avant sa mort.
Une question très concrète, Bernard, pour finir. À qui iront les revenus générés par la vente des deux livres?
Bonne question, et je l'ai posée à l'éditeur Jean-Loup Champion.
Alors c'est très simple. Comme finalement peu de gens savent, les droits d'auteur vont toujours aux héritiers de l'écrivain. Donc Anne Pinjot n'a aucun droit, elle possède cette correspondance, elle est la dessinatrice, mais ce n'est pas elle qui bénéficiera de ce livre. Ce sont les 3 enfants de François Mitterrand qui ont tous les 3 accepté, bien entendu, que cette correspondance soit publiée. Nous n'aurions pas pu le faire sans leur accord à tous.
Donc Mazarine, Gilbert et Jean-Christophe.
Absolument, qui ont tous les 3 signé un accord nous autorisant à publier cette correspondance.
Lettre à Anne et Journal pour Anne de François Mitterrand, publié donc chez Gallimard par l'intermédiaire de Jean-Loup Champion.
Merci beaucoup Bernard Lehu de nous avoir fait découvrir en fait la véritable histoire de ces lettres. Dans quelques instants, on se retrouve avec nos audiences télévisées du week-end.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, parlons de nos audiences du week-end avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et nos amis de Médiamétrie.
Eh bien, c'est parti. Vendredi, le match de foot France-Bulgarie ne ravit pas seulement les fans de foot, mais également TF1, nettement en tête des audiences, avec près de 6 800 000 téléspectateurs, près de 8 à la fin du match, ce qui n'enlève tout de même rien au petit meurtre de la 2, brillante deuxième, avec 4 200 000 fidèles. C'est Alassa qui, du coup, accuse injustement le coup. Samedi, de Voice Kids, la finale est comme d'habitude en tête, avec près de 5 millions de fidèles. C'est 400 000 de plus que samedi dernier, et comme d'habitude désormais, la fiction de la 3, le feuilleton innocente, devance nettement la 2. Quant à hier, cela surprendra qui que la comédie hypochondriaque ait nettement battu toute la concurrence, j'y arrive, avec 6 700 000 fanas, mais Karine Le Marchand réussit son démarrage sur M6 avec 3 100 000 téléspectateurs curieux devant la 6, 20% des femmes. C'est la meilleure audience pour une émission avec des politiques depuis la rentrée.
Merci beaucoup,
j'en ai fini et pas avec vous.
Allez, musique à présent, c'est l'événement de la semaine, 3 ans après Love, vendu à 400 000 exemplaires. Julien Doré de retour. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Le chanteur publiera vendredi son 4e album.
Un disque au nom imprononçable ou presque à la radio. Julien Doré a utilisé le logogramme qui remplace la conjonction et, vous savez, ce petit caractère qu'on appelle esperluette. C'est celui qui avait été utilisé par le logo de France Télécom il y a quelques années, très utilisé aussi par les anglo-saxons. Avant de plonger dans le disque, comment faut-il l'appeler ? Réponse de Julien Doré.
Moi, j'appelle l'album « Et », mais la façon dont il est dessiné, ce « Et », c'est une figure qui se regarde, quoi. Et son nom, c'est Esperluette. Là où, généralement, un titre d'album vient clôturer, fermer ce qu'est une suite de chansons, celui-ci ouvre les possibilités. Il peut finalement fonctionner seul et symboliser une union, une addition, et quelque chose de très très simple qui explique que rien n'est possible sans quelque chose à gauche et à droite de ce fil-là. Et moi, je propose le fil pour que l'union se fasse. Cette idée-là, quand même, elle parcourt tes chansons.
Et des chansons, il y en a 13 dans ce nouvel opus, un disque de pop française, vaporeux, solaire, saupoudré de rythmes électroniques. Exemple avec Le Lac.
Corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimais sur les bords du lac.
Que respire les grands espaces et pour cause, il est né au vert. Il y a un an, Julien Doré a frôlé le burn-out. La fin d'une tournée harassante de 160 dates et le climat post-attentat à Paris l'ont poussé à faire ses valises. Direction le chalet familial de Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes.
D'une certaine façon, pour reprendre un peu un souffle, quoi. Je savais que dans cet endroit-là, dans mes souvenirs d'enfance, il y avait des chaînes de montagne, du calme. En fait, je crois que j'avais besoin de ça. Pensant que ceci serait presque un départ un peu solitaire, je crois que j'ai jamais autant parlé et fait d'apéro de ma vie que dans ce chalet. C'était vraiment des mois et des mois extrêmement privilégiés parce qu'en fait, je pouvais prendre le temps de faire exactement ce que je souhaitais. Et ce disque, je pense, c'est le reflet de ça. Le fait qu'il n'y ait pas de réel studio. Les voix, je les ai faites dans le salon, là, en bas, du chalet. Donc, c'était entre les craquements de bois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où se synchronisent les choses.
Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi.
Alors comme pour Love ou Bichon, hein, Julien Doré s'intéresse bien évidemment, Steven, aux sentiments amoureux dans ses nouvelles chansons.
Oui, même dans l'environnement familial de ce chalet, le chanteur de 34 ans n'a pas réussi à écrire sur sa jeunesse. Il décortique donc un peu plus l'amour et ses tourments. Une phrase résume parfaitement le nouvel album de Julien Doré. On l'entend dans la chanson Moonlight Serenade. Faut pas trop m'aimer moi, sinon je panique. Instant divan.
Évidemment, je m'adresse pas aux gens qui m'aiment et qui aiment ma musique. Je m'adresse aux femmes. Enfin, pour être très honnête, j'ai toujours ce sentiment quand on peut tomber amoureuse de moi que je ne comprends toujours pas d'où ça vient, en fait. Il y a toujours cette partie de moi qui me dit que je dois m'en méfier parce que ça ne durera pas et puis parce que je ne le mérite pas. Et je ne sais pas d'où vient cette peur-là d'être aimé, mais aimé d'amour. Et c'est d'ailleurs peut-être lié, c'est-à-dire qu'évidemment, le fait d'écrire des chansons, de monter sur scène et de ressentir cet amour immense que le public que j'ai la chance d'avoir me donne, évidemment qu'il vient combler sans doute quelque chose qui est peut-être un peu plus absent de ma vie d'homme, ouais, c'est sûr.
Faut pas trop m'aimer, moi, si l'on m'abandonne.
mois depuis son précédent disque. Julien Doré chante vraiment différemment, non, Steven ?
Ouais, son chant est chuchoté, velouté. Julien Doré a abandonné la voix pleine et grave de ses deux premiers enregistrements. Avec Love, il y a 3 ans, il a trouvé une signature, mais il jure que c'est inconscient.
Sur la plage, coco.
Parce que j'ai eu cette discussion il y a très peu de temps en étant au tout départ presque outré. Alors heureusement c'était un pote, mais il me dit mais tu te rends compte sur ce disque, c'est vrai, tu chantes moins. Je dis mais comment ça je chante moins? Et j'ai réécouté. En fait c'est vrai quoi. Mais c'est-à-dire que j'en avais même pas conscience. C'est-à-dire j'ai tellement une façon de composer qui fait que c'est la suite d'accords qui va donner naissance à la mélodie et donc au placement de voix. Et en même temps je ne parle pas. C'est un chant qui caresse quoi. Mais c'est vrai que je chante moins au sens simple du mot.
Coco Caline, retrouvé dans l'album et le nouveau disque de Julien Doré qui sort vendredi prochain. C'est frais, bien produit, il arrive vraiment à imposer une ambiance, hein, mais un poil monotone à mon goût quand même. Julien Doré repart en tournée à Paris à partir du 23 février. En tournée, 23 février. 9 mars à Brest, 25 mars à Lyon, 4 mai à Bordeaux, 10 mai au Zénith de Paris.
Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio.
On quitte Porto Vecchio, Steven Bellery et Julien Doré pour retrouver maintenant Harry Potter. C'est le retour, c'est donc ce jeudi à minuit que sort en France le livret de la pièce de théâtre qui cartonne depuis cet été en Angleterre, Harry Potter et l'enfant maudit. Ce n'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit seule, mais c'est elle qui a inspiré cette histoire. J.K. Rowling, ancienne secrétaire, devenue l'écrivain le mieux payé du monde, Laurent Marsic.
Oui, fortune estimée, 275 millions d'euros, ça laisse rêveur, entre septembre 2015 et le mois dernier, soit un an. Elle a gagné 96 millions d'euros. Elle est effectivement l'écrivain le mieux payé au monde. Le business total d'Harry Potter, c'est 14 milliards d'euros. Alors on compte tout, hein, les films, les livres, tous les produits dérivés qui existent. Avec le tome 8, celui qui est considéré comme le tome 8, vous doutez bien que tout ça va encore évidemment augmenter.
Et pourtant, elle avait dit, c'est terminé. En fait, ça s'est jamais arrêté.
Bah, oui. Exactement, ça s'est jamais arrêté. D'abord, elle a continué à écrire. Elle a sorti ce qu'on appelle des spin-offs d'Harry Potter. Elle a continué aussi à écrire sur son site internet Pottermore. Elle a collaboré au film. Elle a écrit des scénarios, celui des animaux Fantastique, qui était un livre qu'elle avait sorti en 2001. Le film sortira en novembre au cinéma. Oui, elle ne s'est jamais arrêtée. J'ai demandé pourquoi à un homme qui la connaît mieux que personne à travers ses livres, c'est son traducteur français, Jean-François Ménard.
Je ne sais pas s'il arrêtera un jour, mais en tout cas, il était assez normal, étant donné la fin du 7e volume, quand on fait un épilogue qui se passe 19 ans plus tard avec des personnages qui déjà existent tellement bien, on se dit, il y aura une suite. Quand on crée un tel univers, celui de Harry Potter, je ne pense pas qu'on puisse l'oublier si facilement. Il est forcément présent, il est forcément là, et on a envie de temps en temps de continuer.
Alors du coup, les ventes sont relancées en permanence, hein, c'est ce que constate Bruno Caillet, le directeur de la diffusion chez Gallimard, d'autant que la France est un territoire très particulier. C'est chez nous que Harry Potter a eu le plus de succès, avec 27 millions de livres vendus.
Alors ça s'est jamais arrêté. On est actuellement à 28 millions d'exemplaires vendus pour la France. Ça ne s'est jamais arrêté parce que maintenant on peut considérer que ça appartient au fond. On est face à un auteur et à une œuvre qui maintenant est entrée dans la prescription. On est face à quelque chose qui sort du cycle habituel d'un ouvrage. On peut arriver à des niveaux de vente aussi importants, mais après 50 ans d'exploitation d'un ouvrage.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que le succès de ces livres a considérablement modifié le secteur jeunesse.
Oui, alors ça n'a pas été le premier à Harry Potter, mais c'est lui par exemple qui a popularisé le grand format, le gros livre de 800 pages, Bruno Caillet.
Ça a été aussi l'occasion d'une rupture sur le marché de la jeunesse. Ça a boosté le secteur. Le fait qu'il y ait un grand format, peut-être à donner plus envie aux adultes d'aller chercher des ouvrages qui avant étaient sur un format poche, peut-être plus réservés à un public plus jeune. Et ça a permis aussi que ce segment se crée et qu'un nouveau segment se crée dans le marché de la jeunesse.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque d'Harry Potter, il y a eu des dizaines d'autres auteurs et de livres sur les petits sorciers. On a vu un nombre incalculable de sorciers apparaître à ce moment-là.
Alors, jeudi sort donc un nouveau volet, Harry Potter et l'enfant maudit. Ça raconte quoi, Laurent ?
Alors, la version française est entourée d'un grand secret et d'un énorme embargo jusqu'à jeudi minuit. Je n'ai pas reçu le livre, mais comme il est sorti en anglais, on en sait quand même un peu. L'action de la pièce, puisque c'est une pièce de théâtre, se déroule 19 ans après les Reliques de la Mort. Marié et père de 3 enfants, Harry Potter se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils, Albus Severus Potter, affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Ce texte, appelons-le, voilà, est un le livret de la pièce de théâtre qui se joue donc à Londres. C'est une écriture à plusieurs. Rowling a inventé l'histoire. Le dramaturge Jack Thorne a écrit le livret et le metteur en scène John Tiffany l'a monté au théâtre. Harry Potter et l'enfant maudit a caracolé tout l'été en tête des ventes. Du coup, comme pour les autres livres, ce tome 8 va bénéficier d'une mise en place exceptionnelle. Bruno Caillé.
Alors, mise en place exceptionnelle, on est sur une mise en place de 600 000 exemplaires pour le marché français. Par an, il y a quelques ouvrages seulement qui atteignent ce type de mise en place. Et là, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est une mise en place qui va s'accompagner de ventes extrêmement rapides. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est donné les moyens de pouvoir continuer l'exploitation si le succès dépasse ce qu'on espère. Alors, ils sont livrés au dernier moment, ils sont livrés chez des clients qui se sont engagés à ne pas le mettre en vente avant. Donc, logiquement, la mise en vente va commencer à minuit, jeudi soir.
Voilà, ça va aller très vite.
Voilà, et l'enfant maudit, publié à partir de minuit jeudi, édité chez Gallimard Jeunesse, au prix de 21 euros. Donc, vous achetez une pièce de théâtre.
Voilà, c'est une grosse pièce de théâtre.
Ça n'a rien à voir avec les romans. Les grosses pièces de théâtre. Dans un instant, Riyad Satouf, vous savez qu'on ne se lasse pas de lui. Nous serons avec Monique Younes.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
9h22, Monique Younes, le troisième volume de l'Arabe du futur de Riyad Satouf vient d'arriver en librairie chez Alary et il paraît que ça se corse entre le père et la mère du petit Riyad.
Il était temps. Les Bretons sont endurants, mais il y a des limites tout de même. Nous sommes en 1985 et cela fait 7 ans que cette mère bretonne suit son mari syrien dans des pays aussi dépaysants que la Libye et la Syrie. Cela fait 7 ans que son mari lui promet de devenir milliardaire sans s'en donner les moyens. Alors elle se morfond, raconte Riyad Satouf dans sa bande dessinée.
Et donc en effet, elle commence vraiment à ne plus vraiment y croire. Elle passait ses journées à faire des puzzles où elle reconstituait une photo de Saint-Malo. Il y avait 5000 pièces avec autant de fenêtres. Et je ne comprenais pas comment un être humain pouvait venir à bout d'une telle chose. Ça me semblait être un petit peu plus difficile que de construire une cathédrale ou une pyramide d'Égypte. Et donc je ne sais toujours pas, d'ailleurs quand je vois des puzzles, je suis toujours extrêmement impressionné.
Ça fait quelque peu vaciller le père de Riyad, tiraillé donc entre sa femme qui crise et qui veut rentrer en France, et sa mère, sa propre mère, qui le traite de mécréant, lui qui ne rêve que de millions, ou du pays ultime, l'Arabie Saoudite.
Mon père a toujours été fasciné par la figure de l'homme fort qui, par sa seule volonté, sa seule puissance, crée un État et qui devient l'homme fort de cet État. C'est ce qui fait qu'il était complètement admiratif de Kadhafi dans l'Arabe du futur 1, et qu'ensuite dans le 2, il adorait Hafez el-Assad, et lui-même s'identifiait à ce type d'homme parti de rien, et qui, à force de ténacité et de grandeur et de savoir, devient président. Et donc la fondation de l'Arabie Saoudite, ça le fascinait totalement, que ce soit un chef bédouin qui avait imposé, en tuant tout le monde, en fait c'est ce qu'il m'a raconté, que c'était un type qui s'appelait Al-Saoud et qui avait décapité tous ses ennemis. Il avait fondé le royaume qu'il avait appelé l'Arabie Saoudite. Et mon père disait, tu te rends compte, c'est comme si je créais un pays et que je tuais tout le monde et que je devenais président et qu'on l'appelait l'Arabie Satoufite.
J'adorerais être à la tête de l'Arabie Younicite.
Bien entendu.
L'Arabie Satoufite, c'est un des moments forts du livre, extraordinaire.
Donc, il ne devient pas un peu mégalo, le père Satouf?
Un peu, vous êtes gentil. On le voit augmenter d'album en album. Et son fils Riyad, à l'âge de 7 ans, commence à s'en rendre compte, notamment quand il visite par hasard le bureau de son père, professeur à l'université.
C'était tellement un choc que je l'ai un peu amélioré dans les dessins. Il ne faut pas trop en dire, mais c'est vrai que mon père, disons, avait le défaut, comme beaucoup de gens, que même moi je peux avoir, c'est-à-dire toujours de se présenter sous un meilleur jour que ce qu'on est en réalité. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était l'âge où j'ai commencé à me rendre compte que les gens n'étaient pas forcément ce qu'ils disaient qu'ils étaient. on s'en rend compte, en fait, et on se dit, mais il n'y a pas de logique, en fait, il ment, en fait, c'est n'importe quoi, cet édifice ne mène nulle part, enfin, voilà. Et mon père, je commençais à me rendre compte qu'il n'était peut-être pas autant un grand homme que ce que je pensais.
Est-ce que ça changeait les rapports ou...
Ben, non, pas vraiment, je faisais comme tout le monde, je me mentais à moi-même en me disant que je devais me planter.
Voilà, ainsi va ce troisième tome de l'Arabe du futur, un fils qui grandit, continue de détester son frère et d'obéir à son père, malgré l'épreuve douloureuse de la circoncision tardive. Un Riyad qui commence à prendre la mesure de la violence et de l'hypocrisie de ceux qui l'entourent, en Syrie comme en France, et qui, dans son coin, à l'abri des ambitions paternelles, se construit son imaginaire avec Conan le Barbare et Goldorak.
Ah, ce sont deux compagnons un peu particuliers. Oui. Merci beaucoup, Monique Younès. Dans un instant, on se dit au revoir. Et on accueille Julien Courbet. Il est 9h30. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est ces petits bruits que j'entends autour de vous, Julien ?
Rien du tout. C'est tout le monde qui se met en flamme. C'est une spéciale aussi. On va mettre trois chiens à l'adoption ce matin.
Ah.
Vous êtes sérieux ?
Non, sérieux, vraiment.
Non, mais c'est pas ce que j'entendais, là.
Non. Ils sont pas là. Là, c'est les avocates qu'on met aussi à l'adoption. Donc, je vais commencer par ça tout de suite. Oui. Il y a une griffonne blonde qui va vous parler un petit peu.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour, maître Fellono.
Un petit Yorkshire également.
Voilà.
Alors, elles sont propres, évidemment. Elles ont besoin d'un petit jardin parce que d'affection, bien sûr.
Elles sont stérilisées.
Elles ont besoin d'un petit jardin également.
Enfin, la mienne, elle est stérilisée.
Écoutez, voilà. Moi, je pense qu'on va les placer très facilement.
Ah oui, je pense aussi. Le voilà. Dernier argument fait mouche.
Oui, bien entendu. Ah, alors, bonne émission avec tout votre chenil.
Oui. Hein, merci, bonne journée.